Avant de laisser la parole à Mgr Gaucher, un petit mot d'introduction qui, rassurez-vous, sera très bref. Un petit mot, non pas pour le présenter, parce que je crois que vous le connaissez tous. Je dis simplement qu'il est donc évêque auxiliaire émérite de Bayeux et Lisieux. Nous le connaissons comme peut-être le spécialiste, en tout cas un des très très grands spécialistes de Thérèse de Lisieux. Mais avant de connaître Thérèse, il a connu Bernanos, le connaît très bien. Je le remercie déjà des conférences qu'il va donner. Je le remercie aussi d'avoir mis à notre disposition tout ce qui a donné la matière de la très belle exposition que vous avez sur le palier. Je voudrais simplement terminer par un petit mot d'explication de cette journée d'études sur Bernanos. Il s'est trouvé que à la fin de... Bon, d'abord, l'idée vient de Mgr Gaucher qui nous a fait cette proposition, mais j'avoue que je l'ai saisie avec joie parce qu'il y a un vrai besoin. En regardant un journal qui faisait un petit peu le panorama de l'année 2008, ce journal avait eu la bonne idée de conserver, de prendre quelques mots qui lui paraissaient être symboliques de l'année 2008. Des mots nouveaux qui étaient apparus dans le vocabulaire. Alors, il y avait par exemple subprime, bon, et derrière ça, toute la crise économique. Il y avait l'iPhone, derrière ça, toutes les nouvelles technologies. Et il y avait aussi le mot bling-bling. La culture bling-bling. On pourrait dire la sous-culture bling-bling. Une culture, si vous voulez, de la superficialité, du clinquant, du manque de profondeur, de l'ignorance culturelle, etc., etc. Eh bien, je crois que Bernanos, c'est l'anti-bling-bling. Nous allons rencontrer un homme de conviction, un homme de culture, un homme d'humanité, au singulier et au pluriel, un homme qui a à dire quelque chose et qui sait le dire. Alors, merci, Mgr Gaucher, d'être
chrétien.
Et un chrétien, oui, un apôtre chrétien, un apôtre engagé, un apôtre par la plume, un apôtre aussi par le témoignage de ce qu'il est, un être plein de consistance, de densité, très belle humanité aussi.
Merci. Alors, bonjour à tous. Nous n'allons pas faire de littérature, ce qui est fort possible. Ce soleil de Satan est à l'agrégation cette année. Et j'en parlais avec un jeune prof de la Sorbonne qui affrontait à ce texte. Justement, ça sera essentiellement le chrétien Bernanos, c'est-à-dire... C'est une anecdote qui nous a amené à ça. Quand je suis entré au Carmel, autour de la quarantaine, après avoir été prêtre à Paris, je découvrais le Carmel, j'allais dans les Carmels, je voyais des carmélites, je voyais des grilles, je voyais tout ça. Et dans ma naïveté, je dis une fois à une prieure, je dis à la communauté, avez-vous lu le journal des curés de campagne? Parce que j'étais plein de... La prieure, d'un air un peu pincé, elle m'a dit « Mon père, ici, on ne lit pas de romans. » Alors, je me suis tenu pour dire et j'ai attendu 35 ans. Il y a l'année dernière, je reçois une invitation d'un Carmel pour une retraite, ce qui n'est pas rare, et j'étais prêt à refuser parce que je ne pouvais pas tout faire, et je vois que la prieure me dit « Voilà, nous voulons une retraite sur Bernanos. » Il y avait donc 35 ans que j'attendais ça. Évidemment, j'ai téléphoné en disant « Est-ce que c'est une blague ? Est-ce que vous ne faites pas une session ?» Non, une retraite. J'ai dit « Bon, d'accord. » Je suis parti au Carmel de Develier, qui est en Suisse, et donc j'ai fait cette retraite qui a été enregistrée, qui y a même des CD, etc. Et du coup, vous savez, dans les Carmels, c'est comme dans les téléphones arabes. Maintenant, il y a d'autres Carmels qui m'ont demandé des retraites sur Bernanos. Bon, c'est la mode, ça. Et puis, alors, pour ici, je pense que dans la formation d'un studium de séminaristes, de prêtres, de consacrés ou de laïcs, nous étudions les pères de l'Église, c'est bien, il faut, Mais en tant que français ou même humain, parce que Bernano s'est traduit en bien des langues, on a des pères de l'Église, de la littérature, les Blois, les Claudel, les Bernano, les Mauriac, qui ne sont pas à ignorer, car ces gens-là ont été présents dans leur histoire et ce sont des témoins. Donc, par exemple, les étudiants de l'école Notre-Dame à Paris, qui une fois par an décident de faire une journée, ont fait une journée sur Mauriac, sur Bernano, sur Claudel. Bon, on fait ça aussi. Bon. Donc, je crois que nous ne sommes pas en dehors du sujet de votre formation. Je crois que c'est important. D'autant plus que dans un colloque sur Bernano, il y avait le doyen d'Aix-en-Provence, M. Guyon, qui est mort, qui avait écrit plusieurs livres, entre autres Dieu chez Peggy, je crois, et il disait, j'ai entendu 50 sermons sur le péché, je n'ai pas compris grand-chose, mais j'ai lu les romans de Bernano, je crois que j'ai saisi ce qu'est le péché. Bon, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Et d'autant plus alors qu'il y a quand même un lien particulier entre Bernanos et Thérèse. Moi, mon histoire, en résumé, c'est un diplôme d'études supérieures à la Sorbonne, et puis à cette époque-là, moi, à 20 ans, 22 ans, Thérèse ne m'intéressait pas du tout, avec ses statues, ses roses et tout ça, mais Bernanos me paraissait un chrétien tel que nous étions à la Sorbonne en ce temps-là, où le marxisme dominait tout. Bernanos avait quelque chose à dire. Et donc, j'ai découvert, à partir du fameux Tout est grâce, que vous avez peut-être vu hier soir au cinéma, dans le film de Bresson, qu'il y avait une filiation, du coup, je suis passé à Thérèse, donc je dois à Bernanos d'avoir rencontré Thérèse. Donc, je suis resté fidèle à Bernanos. Voilà. Je commence par un texte qui vient comme ça dans son œuvre de combat, car nous verrons, je ne vais pas vous faire ni la biographie de Bernanos, ni, elle a dit, on n'a pas le temps, vous avez une exposition, on vous donnera une feuille résumée de sa vie et ses œuvres pour vous repérer un peu. Nous sommes l'année Bernanos, enfin nous venons de la dépasser, il est né en 1888, l'année où Thérèse entre au Carmel, il est mort en 1948 à 60 ans d'un cancer du foie, Et c'est l'année 2008, était donc une année Bernanos qui ne fait pas tellement grand bruit parce que nous sommes dans la civilisation bling-bling et que les choses un peu profondes, ça ne passe pas beaucoup à la télé. Alors, ce texte. Mon œuvre, c'est moi-même. C'est ma maison. Je vous parle la pipe à la bouche, ma veste encore fraîche de la dernière averse et mes bottes fument devant l'âtre. Pour m'adresser à vous, je n'ai même pas la peine de passer d'une pièce dans l'autre. Je vous écris dans la salle commune, sur la table où je souperai tout à l'heure avec ma femme et mes enfants. Entre vous et moi, il n'y a même pas l'ordinaire truchement d'une bibliothèque, car je n'ai pas de livre. Entre vous et moi, il n'y a vraiment rien que ce cahier de 2 sous. On ne confie pas de mensonge à un cahier de 2 sous. Pour ce prix-là, je ne peux vous donner que la vérité. Il écrivait ça quand il était au Brésil. Alors vous avez l'exposition. La seule chose que je demande, c'est de ne pas dire, tiens, je vais prendre un bouquin pour lire, puis je le ramènerai après. Il vaudrait mieux pas s'il pleut, ou alors vous me le diriez. Et puis pas trop tout remuer dans tous les sens pour que ça puisse. L'expo restera 8 jours, il y a le temps d'abord. Nous commençons par la vocation de Bernanos. La vocation. Je vous ai dit, c'est un texte qui... Alors, ce texte va paraître en livre au CERF cette année, Retraite avec Bernanos. Bernanos a toujours eu la certitude d'être un appelé, de répondre à une vocation. Élevé dans un milieu catholique enraciné dans la foi, il a pensé, comme beaucoup d'enfants et d'adolescents, en ce temps-là, à être prêtre. Sa famille à Fressin, Pas-de-Calais, Blangy, vous avez un cahier qui montre les photos de Fressin et tout ça, fréquentait plusieurs prêtres. C'était des séminaristes, des prêtres. Et on sait la place éminente du prêtre dans ses romans. L'adolescent de 17 ans se confie à l'abbé Lagrange, qui est son père spirituel. Il lui dit, au moment de ma première communion, la lumière a commencé de m'éclairer. Je me suis dit que ce n'était surtout pas la vie qu'il fallait s'attacher à rendre heureuse et bonne, mais la mort, qui est la clôture de tout. Et j'ai pensé me faire missionnaire. Et dans mon action de grâce, à la fin de ma première communion, j'ai demandé cela au Père comme unique cadeau. Ce n'est pas très courant qu'un garçon de 17 ans dise « c'est la mort qui compte ». En fait, la mort m'a marqué beaucoup. Puis toutes ces bonnes résolutions, quoique encore vivantes, se sont endormies. Et je n'ai pas mérité pendant longtemps cette lumière du bon Dieu. Vous savez, si j'étais léger l'année dernière et insouciant en fait de piété. Pourtant, je ne puis nier avoir un peu changé, j'en suis sûr, revenu tout doucettement, avec l'aide d'une confession générale et des bons soins de mon directeur, à l'état d'esprit de ma première communion. La piété trop doucette en moi. Non que je veuille me faire prêtre. Ai-je perdu ma vocation par ma faute? Ai-je jamais eu autre chose que de la sensibilité? Je ne sais. Mais toujours est-il que ma voix, il me semble, n'est point de ce côté. Ce que je veux dire en me disant, revenu aux idées de ma première communion, c'est que je reconnais plus que jamais que la vie, même avec la gloire, qui est la plus belle chose humaine, est une chose vide et sans saveur, quand on n'y mêle pas toujours, absolument, Dieu. D'où il m'apparaît logiquement que pour être heureux, il faut vivre et mourir pour lui, aidant à ce que son règne arrive selon votre âge, selon votre position, vos moyens, votre fortune, vos goûts. C'est clair. Le jeune homme cherche sa route. Il continue sa réflexion sur son évolution. Ensuite, j'ai rencontré ici un confesseur qui a beaucoup contribué à ce que vous appelez ma conversion et qui a la tâche de me montrer ce que j'avais à faire. Puis j'ai lu de bons et beaux livres, des choses qui peuvent servir. Alors, entre autres, l'homme, les physionomies des saints et le siècle d'Ernest Hélot. Ernest Hélot était un écrivain catholique de l'époque qui pouvait marquer la jeunesse et d'autres. J'ai compris grâce à eux que nous ne pouvons valoir quelque chose que par le sacrifice et l'oubli total de soi au profit de Dieu et de sa cause. Et que le meilleur moyen d'arriver au mépris de la mort est l'offrande de la vie et de la mort. Je suis donc décidé à faire mon possible pour obtenir cette grâce dont vous ai parlé et que j'ai demandé le jour de ma première communion. Et je vous le répète, si je ne choisis pas le commerce, c'est parce qu'il me semble que ma voix n'est pas là. Et qu'ayant cette position, j'en arriverai vite à faire mes adorations au veau d'or, ce qui serait tombé bien misérablement. Alors, si je n'ai pas la vocation, si je n'ai pas l'intention de me faire prêtre, c'est d'abord qu'il me semble que je ne peux pas en avoir la vocation, et qu'ensuite, un laïc peut lutter sur bien des terrains où l'ecclésiastique ne peut pas grand-chose. Donc ceci est bien clair. Il choisit dans ce pas décisif une vocation de laïc. Il n'a pas renoncé à un état de vie consacré qui le mettrait au-dessus de l'ensemble des fidèles. Nous sommes bien avant Vatican II. Nous sommes bien avant Vatican II qui a remis en valeur la vocation baptismale et qui a compris la grandeur du sacrement de baptême qui fait de l'homme et, mesdames, de la femme, un prêtre, un prophète et un roi. Liturgie du baptême. Si vous voulez dire prêtresse, prophétesse et reine, je suis pas contre. À son époque, le sacerdoce baptismal ou sacerdoce commun des fidèles était largement ignoré. Quel prêtre l'enseignait à ses paroissiens? Réalité parfaitement traditionnelle, mais oubliée peu à peu dans l'histoire. Et des théologiens comme le père Congar ont retrouvé les sources patristiques de cette vérité fondamentale. Et le Concile l'a magnifiquement exprimé en disant « Le Christ Seigneur, grand prêtre pris d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. » Apocalypse 1, 6, 5, 9, 10. Les baptisés en effet par la régénération et l'onction du Saint-Esprit sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, de façon à offrir par toutes les activités du chrétien autant d'hosties spirituelles, en proclamant les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière. Première de Pierre 2, 4, 10. C'est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange de Dieu, acte 2, 42, 47, doivent s'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu, Romains 12, 1, texte fondamental, porter témoignage du Christ sur toute la surface de la terre et rendre raison sur toute requête de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle. 1 Pierre 3, 15. Vous avez là, je pense, je crois, Bernanos et Thérèse de Lisieux auraient été ravis de savoir ça. Ils ne le savaient pas vraiment. Le catéchisme de l'Église catholique a exploité les données fondamentales du Concile. Je ne le lis pas pour gagner du temps. Alors, il est dit au passage, quand même, le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun. Il est relatif au déploiement de la grâce baptismale de tous les chrétiens. Il est un des moyens par lesquels le Christ ne cesse de construire et de conduire son Église. Ce que Jean-Paul II a bien dit dans un voyage en France, le sacerdoce ministériel ne signifie pas en soi un degré plus élevé de sainteté par rapport au sacerdoce commun des fidèles. Si à mesure qu'on croit dans la hiérarchie, la sainteté se faisait, ça finirait par se savoir. Mais par le sacerdoce ministériel, les prêtres ont reçu du Christ par l'Esprit un don spécifique afin de pouvoir aider le peuple de Dieu à exercer fidèlement et pleinement le sacerdoce commun qui lui est conféré. Là, je m'empêche immédiatement de faire une parenthèse qui nous égarerait pour dire, je pense que 50 ans après le Concile, ces réalités fondamentales, sacerdoce ministériel et sacerdoce baptismal, ne sont pas vraiment bien prêchées, que ce n'est pas encore vraiment entré et dans la tête des laïcs et des prêtres. Et si chacun savait ce qu'il est dans le peuple de Dieu, ça aiderait beaucoup pastoralement sur le terrain. Les prêtres ne diraient pas « moi, je n'ai plus rien à faire, les laïcs font tout », les laïcs ne prendraient pas le pouvoir, etc. En dehors des problèmes de la nature humaine qui sont inévitables. Mais enfin, si chacun savait ce qu'il était, ça aiderait beaucoup. Mort en 48, Bernanos n'a pas connu ces textes fondamentaux. Il suffit à réfuter quelques allégations de certains critiques du temps de la vie de Bernanos qui, voyant la place prépondérante du prêtre dans ses romans, en déduisaient qu'il était un prêtre raté. Bernanos, ce n'est pas un prêtre raté, c'est au contraire un laïc qui est bien à sa place, père de famille, six gosses, et qui va vivre ces textes, si on peut dire, va les exprimer. Sa vocation se révélera lentement. Alors, il fait la Première Guerre mondiale, 14-18, marié en 1917, en pleine guerre, il aurait été blessé à Verdun. Je ne peux pas ne pas faire un parallèle avec le père Marie-Eugène et sa guerre de 14-18, dont j'ai parlé dans sa biographie, parce que on n'avait pas l'air trop de se rendre compte des fois ce que ça avait pu être pour cette génération. Bernanos est de la même génération. Ils sont marqués à vie par ce cataclysme qui verra mourir plein de gens autour d'eux. Et il est quand même courageux. En 1917, il se marie avec mademoiselle Jeanne Talbert d'Arc, descendante du frère de Jeanne d'Arc. Il n'a pas épousé parce qu'elle était descendante du frère de Jeanne d'Arc, mais c'est sûr que, comme il a Jeanne d'Arc pour lui, de plus en plus, ça sera important, c'est une chose très forte qui l'a beaucoup marqué. En 1921, il a déjà deux filles. Ayant écrit dans plusieurs journaux avant la guerre, il envisage d'écrire. Il a composé quelques nouvelles, dont Madame d'Argent, qui est parue en 22, mais surtout, il doit nourrir sa famille. Et c'est pour ça qu'il va la faire manger. Donc, il s'engage dans les assurances. Et il va assurer les gens de la région de l'Est, disant, contraint de gagner ma vie en assurant les gens sur la leur, je passe le clair de mon temps aux hôtels et dans les gares, dans les trains. C'est dans ces conditions peu favorables à la concentration qu'il rédige peu à peu un premier roman, Sous le soleil de Satan, qui va paraître en 1926, et c'est à la fois une bombe et un best-seller. Sous le soleil de Satan a le culot de montrer un prêtre, l'abbé Donissant, face au diable, qui s'incarne, si je puis dire, dans un maquignon du nord de l'Artois, très sympathique d'ailleurs ce diable, et toute une aventure. Et donc, ça va contre pied de la société qui, à ce moment-là, s'éclate, se défoule de la guerre 14-18. Hein. C'est toute une époque où tout le monde veut revivre, fait n'importe quoi, etc. Et puis tout d'un coup, Balanos leur balance comme ça en plein. Or, ce livre a un énorme succès. Et alors, à 40 ans, il largue les assurances et se lance dans l'écriture, qui est une aventure incroyable, parce que ça va le mener sur les chemins de la pauvreté. Il n'est pas très doué pour gérer son argent. Il en a gagné beaucoup par ses livres, nous verrons. Mais bon, il va avoir 6 gosses. Et donc, il va mener une vie qu'il a voulu quand même, parce que de pauvreté. Et il va déménager 33 fois dans sa vie. Alors, on dirait qu'il avait la bougeotte. Bon, mais il avait aussi qu'il cherchait à régler ce problème. Et il y avait des endroits, nous verrons, peut-être la vie est moins chère là-bas. Il allait voir. En général, ce n'était pas mieux, comme nous verrons. Alors, il va écrire, mais attention, qu'est-ce qu'il va écrire? Il prend pas la littérature pour quelque chose de divertissant. Il va explorer dans les profondeurs de l'être humain l'homme qui est créé à l'image de Dieu, mais que le non-amour abîme, souille, et on peut dire que le romancier, c'est un peu ce que nous allons voir, va explorer les bas-fonds de l'ennui, de la médiocrité, du désespoir, de la drogue, de la luxure, comme il dit, la haine, non par curiosité psychologique, mais par compassion fraternelle. Dans cet univers atroce que nous allons voir, et tout à l'heure nous allons descendre aux enfers, vous pourrez accrocher vos ceintures, on rencontre les faiblesses, les pauvretés des hommes, mais dans cet univers on rencontre les saints balanosiens. Les saints balanosiens, ce n'est pas des saints canonisés, c'est des chrétiens, c'est souvent des prêtres qui font face, comme dit Bernanos, faire face, et affrontent le mal, tels des enfants, avec un amour qui les mène sur le chemin christique du jardin Gethsémani et jusqu'à la passion, en vivant la communion des saints. Avec le soleil de Satan, on est très loin des romans catholiques du 19e et du 20e siècle, restés en surface du drame humain et spirituel. Le curé de Nissan de Sous soleil de Satan est plus proche des personnages de Dostoïevski que les saints édifiants statufiés par l'art sulpicien de cette époque. On a pu dire que Balanos était le Dostoïevski français, ce qui n'est pas, et ce qui en un sens est presque unique. Balanos avait écrit à Dombès, un religieux qu'il avait marié, « Le métier littéraire ne me tente pas, il m'est imposé. C'est le seul moyen qui m'est donné de m'exprimer, c'est-à-dire de vivre. Pour tous, une émancipation, une délivrance de l'homme intérieur, mais ici, quelque chose de plus, la condition de ma vie morale. Nul n'est moins art pour l'art que moi. » La notion d'art pour art est très forte en littérature, hein. L'esthétique, etc. Et là, c'est tout son environnement. Quels sont les auteurs qui comptent à l'époque, André Gide, etc., les nourritures terrestres, et donc l'art pour l'art, quelque chose de très esthétique. C'est pourquoi le mal est sans remède. En enterrant ma vocation, on m'enterre avec elle, et les idées dont je vis. Je ne suis plus qu'un automate dans le monde, ce sacrifice ne m'est pas demandé. Et il n'hésite pas à invoquer d'autres appelés, ainsi son maître Léon Blois, qui est mort en 17, Léon Blois, sur la colline de Montmartre, un autre auteur, alors beaucoup plus violent que Bernanos, mais qui a compté énormément, parce qu'autour de Léon Blois, s'est fait tout un groupe de convertis, dont le plus célèbre Jacques Maritain, et Jacques Maritain entraînait lui-même un nombre considérable de convertis de toute cette époque, et en ce sens-là, Léon Blois a beaucoup marqué. Alors Bernanos n'a pas connu Léon Blois, mais il l'a lu pendant la guerre, et il vous dit ceci. Léon Blois était appelé Vocatus. Il a retiré ses pantoufles. Il est parti pour une vie de crève la faim, presque sans s'en apercevoir, comme il aurait pris le train pour Meudon ou Robinson un dimanche matin. Mais il pense surtout à Jeanne d'Arc, et il dit dans le même texte, quelqu'un qui est appelé, « C'est ainsi que Jeanne d'Arc est partie elle aussi, un autre dimanche, jambe de ci, jambe de là, sur un gros roussin militaire, partie vers une aventure merveilleuse. » Tout au long de sa vie, Bernanos a médité sur le choix de Dieu qu'il n'a jamais renié, même quand il en a beaucoup souffert, car il en a beaucoup souffert. C'est pourquoi il ne conçoit pas le métier d'écrivain comme tant d'autres qui envisagent une carrière littéraire n'excluant pas une entrée à l'Académie française. Bernanos a refusé 3 fois l'Académie française, beaucoup plus tard évidemment au retour du Brésil. Non pas par mépris, mais ça ne rentrait pas dans ces catégories. En ce sens-là, il est très différent d'un Claudel, d'un Moria, qui ont été prix Nobel, ambassadeurs, un succès fou. Bon, il les méprise pas, bien entendu, mais enfin, quand même, il prend ses dissens, c'est pas sa vocation. D'où un paradoxe constant dans ses écrits. Je suis un écrivain, qui puis-je? C'est mon instrument, c'est le seul dont je dispose. Je ne méritais pas que le bon Dieu m'en désignât un autre. Et en même temps, je ne suis pas un écrivain. La seule vue d'une feuille de papier blanc me harasse l'âme. Ça revient sans cesse. Il est écrivain parce qu'il a reçu cette vocation, mais il n'est pas écrivain de la manière dont il peut y avoir des écrivains. Mais le véritable écrivain, selon sa conception, dit-il, n'est que l'intendant et le dispensateur de biens qui ne lui appartiennent pas, qu'il reçoit de certaines consciences pour les transmettre à d'autres. Et s'il manque à ce devoir, il est moins qu'un chien. Ceci, selon moi, n'est qu'un aspect de cette coopération universelle des âmes que la théologie catholique appelle la communion des saints. Alors il écrit à l'incroyant, « Que ce nom de saint ne vous fasse pas peur si vous n'êtes pas chrétien. » Il est pris ici dans son sens évangélique. C'est le synonyme d'homme de bonne volonté. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, toute vocation est une mission. L'appelé est toujours envoyé, car l'élection ne met pas au-dessus ou en dehors de son peuple, à cause de ses mérites, il est choisi pour devenir un messager. La vocation d'écrivain de Bernanos a évolué en fonction des circonstances historiques. Il n'a pu rester celui qui se consacre à son œuvre, insensible aux soubresauts de l'histoire. Nous sommes à une époque où la littérature va avoir beaucoup d'écrivains engagés. Alors les Sartre, les Camus, Malraux, etc. C'est pas exactement le point de vue de Bernanos, mais Bernanos ne peut pas fignoler son œuvre romanesque indépendamment de ce qui se passe dans le monde. Il a déjà vécu la guerre 14-18. Bon, après il y aura l'enfant, le Front populaire, etc. Et pourtant, l'œuvre romanesque marche bien. Il a écrit « L'imposture et la joie » en 27 et 28, et « La joie » a obtenu le prix Femina. Il a écrit « Journal de Corée de Campagne » qui va avoir le prix de l'Académie française en 1936 et qui va être un énorme succès. Mais il a pensé qu'à Majorque, la vie serait moins chère, et le voilà déménageant avec sa tribu à Majorque. On a fait un colloque, Bernanos, à Majorque, j'ai eu la joie d'y aller, on a retrouvé tous les lieux où il était, toute l'ambiance. Mais voilà qu'à Majorque, il arrive, d'après ses idées politiques dont je ne parlerai pas, c'est tellement compliqué, mais en même temps qu'ils sont simples, il n'a jamais changé. Bon. D'après ses idées politiques, il serait plutôt du côté de Franco. Son fils, à 18 ans, s'engage dans la phalange franquiste. Mais voilà qu'à Majorque, il voit les soldats franquistes ramasser les paysans dans les champs, les mettre dans des camions, aller les fusiller dans les carrières et les brûler. Évidemment, Bernanos ne va pas rester insensible, il va écrire un livre qui est une bombe encore, « Les grands cimetières sous la lune » en 1937. Il va faire un bruit terrible. Il se demande même si Rome ne va pas le mettre à l'index. Mais il a sur lui une lettre, je crois qu'elle est de Pacelli, qui lui dit qu'il ne s'inquiète pas, parce que là c'est tout le problème de la guerre d'Espagne, je ne vais pas en parler de ça maintenant. Mais enfin, c'est là que Bernanos peut pas ne pas s'engager en écrivant, par exemple, les grands cimetières sous la lune. Donc, comme disait Thérèse Villa, le monde est en feu, et il va se consacrer aussi à une vocation pour défendre ce qu'il appelle la vérité et la liberté. Une drôle de vocation, alors par l'écriture évidemment, mais aussi par un certain engagement. Encore une fois, il engage et lutte, devenant un écrivain de combat pour la vérité et pour la liberté, par des livres, par des articles de journaux. Ça sera ainsi en Espagne, au Brésil, en France, jusqu'à sa mort. Et il dira, je suis, comme vous le savez, un romancier qui a cessé d'écrire des romans, c'est-à-dire de faire ce qu'il aimait par-dessus tout, pour essayer de dire ce que d'autres auraient probablement mieux dit à ma place, s'ils avaient le courage de le dire. Mais ils préfèrent devenir ministre ou académicien, que sais-je, ou même archevêque. À partir de ce moment-là, ils deviennent optimistes. Nous reviendrons. Bon. Parce qu'il n'a pas ménagé les évêques espagnols dans les grands cimetières sous la lune. Bon. C'est d'ailleurs, on verra que dans ce livre de pamphlets, il y a le sermon d'un agnostique en la fête de Thérèse de Lisieux, qui fait 24 pages. Je vous conseille ça. On y reviendra peut-être. Si la vocation entraîne l'ambition, elle comporte aussi la passion. Un an avant sa mort, il confie à un journal. Le métier que je fais depuis 2 ans, il était en France depuis 2 ans avant d'aller en Tunisie, le métier que je fais depuis 2 ans n'est pas le mien, journaliste. Et je n'ai jamais attendu de lui qu'il m'apportât des satisfactions d'amour propre, ni d'ailleurs aucune sorte de consolation. C'est ce que devrait bien comprendre le cher Albert Béguin. Albert Béguin, philosophe, écrivain, directeur de la revue Esprit, que j'ai bien connu, qui faisait partie des amis de Bernanos, et qui était l'exécuteur testamentaire de Bernanos quand il est mort. C'est ce que, qui a d'ailleurs écrit un très très bon livre, tout petit au seuil, sur un des meilleurs sur Bernanos. Le cher Albert Béguin, lorsqu'il me reproche de ne plus écrire de romans, oh, sans doute, il n'a peut-être pas tort de croire que je suis fait pour écrire des romans. Mais chaque homme, hélas, a raison de croire aussi qu'il est fait pour le bonheur. Qu'importe pourquoi nous sommes faits, puisque Dieu peut nous faire, défaire et refaire à mesure. Je pense bien que la vocation est un risque. Elle est le risque même de la vie. Eh bien, on doit savoir, dans telle ou telle circonstance capitale, risquer son risque. Vocation, vocatus, Dieu nous appelle, rien de plus vrai. Dieu nous appelle, mais on ne sait pas toujours bien d'où. La vocation de Bernanos l'a conduite vers la pauvreté, la solitude, les souffrances diverses. Combattre pour la vérité et la liberté en ce monde isole et expose à tous les coups possibles, de tous les côtés. Et il dira, le bon Dieu ne m'a pas mis une plume entre les mains pour rigoler avec. Ma vocation sur terre n'est pas de rassurer les imbéciles. Je me suis toujours efforcé d'éveiller ceux qui dorment et d'empêcher les autres de s'endormir. C'est là une besogne qui ne rapporte pas de grands profits ni de grands honneurs, mais qui vous ferme beaucoup de carrières. Et à la fin de sa vie, il se retourne vers son passé, une fois encore, il médite sur sa vocation. À mesure que je vieillis, je comprends de mieux en mieux que ma modeste vocation est vraiment une vocation, vocatus. Le bon Dieu doit m'appeler chaque fois qu'il a besoin de moi. Beaucoup de fois, et sur un ton comminatoire. Alors je me lève en rechignant, et sitôt la besogne faite, je retourne à ma vie très ordinaire. Et un jeune homme, à la fin de la vie, quand Bernanos va bientôt mourir, écrit en lui disant, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain, je me sens une vocation. Il y répond. Cela veut dire que vous serez un écrivain original ou rien du tout. Si le bon Dieu veut vraiment de vous un témoignage, il vous faut attendre à beaucoup travailler, à beaucoup souffrir, à douter de vous sans cesse, dans le succès comme dans l'insuccès. Car pris ainsi, le métier d'écrivain n'est plus un métier, c'est une aventure. Et d'abord une aventure spirituelle. Toutes les aventures spirituelles sont des calvaires. Une vocation d'écrivain est souvent, ou plutôt parfois, l'autre aspect d'une vocation sacerdotale. Alors là, vous avez, encore une fois, Bernanos n'est pas un curé raté, mais il met sa vocation quasiment au niveau d'une vocation sacerdotale. Et là, il y a une étude, on est là-bas à l'exposition, une étude d'un critique de Suède, je crois, M. Arras, un professeur d'université, qui a très bien écrit « Le prêtre et l'écriture ». L'écriture, c'est très intéressant, voir, glisse pas par hasard, si le curé de campagne écrit. Il écrit pas des romans, mais il écrit son journal. Et le problème chez Bernano de l'écriture et du sacerdoce, c'est tout à fait intéressant. Donc, toutes les vocations, l'aventure spirituelle sont des calvaires. Une vocation d'écrivain est souvent, plutôt parfois, l'autre aspect d'une vocation sacerdotale. S'il en est ainsi pour vous, faites face, même aux premières déceptions, ce sont les plus cruelles, faites face courageusement et simplement. Faites face sans négliger pour autant un autre aspect, le troisième, de votre vocation d'homme, celui d'époux et de père qui vous fait un devoir de subvenir aux besoins de votre femme et de vos enfants. Je puis vous écrire comme je fais, j'en ai élevé 6 et je n'ai pu écrire mon premier livre qu'à 40 ans. Vous avez remarqué que chaque fois qu'il dit vocation, il met vocatus, le mot latin. Il évoque l'introduction du mot latin, langue liturgique à son époque, donne une résonance sacrée. S'il vient d'évoquer la vocation sacerdotale, ce n'est point pour imiter le prêtre. Il sait que le baptisé est responsable du témoignage évangélique à donner au monde. Il redit encore, toute vocation est un appel, vocatus, et tout appel veut être transmis. Qui ne défend la liberté de penser que pour soi-même, en effet, est déjà disposé à la trahir. Il ne s'agit pas de savoir si cette liberté rend les hommes heureux, ou si même elle les rend moraux. Il ne s'agit pas de savoir si elle favorise plutôt le mal que le bien, car Dieu est maître du mal comme du bien. Il me suffit qu'elle rende l'homme plus homme, plus digne de sa redoutable vocation d'homme, de sa vocation selon la nature, mais aussi de sa vocation surnaturelle, car celui que la liturgie de la messe invite à la participation de la divinité, divinitatis consortes, ne saurait rien renoncer de son risque sublime. En parlant que je viens de le faire, je parle en chrétien et aussi en français, je parle le langage de ma vieille chrétienté. Il est certain que Bernanos n'est pas un passéiste, mais il a une nostalgie de la chrétienté, non pas comme régime politique d'abord, mais chrétienté au sens où les gens avaient la foi. Et une de ses grandes questions, c'est justement ce que répétait Jean-Paul II, l'homme est créé à l'image et l'ensemblant de Dieu. Sorti de là, l'homme, quand il a cassé par le péché originel et le péché cette réalité, l'homme est déspiritualisé. Et c'est tout le drame du monde moderne. C'est pourquoi toute l'œuvre de combat de Bernanos, qui s'arrête en 1948, reste d'une énorme actualité, et que les journaux, les articles de journaux de son époque pourraient être repris aujourd'hui, on croirait que ça a été écrit hier. Hein, même s'il y a des différences avec, à ce moment-là, c'est la peur de la bombe atomique, etc. Bon, c'est encore la lutte contre le communisme. Bon. Mais voilà le fond des choses. Ce qu'il appellera lui-même une vision catholique du réel. C'est en ce sens-là qu'il est chrétien. Alors attention, il n'est pas un romancier catholique. Il est un catholique qui écrit des romans. Parce qu'un romancier catholique vous donne une étiquette qui fait que, évidemment, presque il n'y a plus que les catholiques qui vous lisent. Bon. Or, Bernanos percera, je dirais, le mur un peu catho. Hein. Bernanos sera lu par Malraux, par Sartre, Simone Veil, l'autre, etc., etc., et sera lu par beaucoup d'incroyants. Parce que précisément, il n'est pas enfermé, il le dira. Je ne suis pas enfermé dans les sacristies. Alors, bien avant l'ouverture du Concile Vatican II, le grand théologien Osvaldo Balthasar, qui a écrit une brique de 500 pages sur le chrétien Bernanos, alors ça c'est de la théologie, un bouquin tout à fait remarquable qui vient d'être réédité par Parole et Silence, Il dit ceci, bien avant encore Vatican II, Bernanos nous montre l'exemple parfait du sacerdoce laïque. Bon, là, je m'appuie sur lui, mais enfin, je crois qu'on peut le montrer. Cette méditation sur la vocation et la mission et la passion de Bernanos peut s'achever sur une lettre importante qu'il a écrite au Brésil, quand il était là-bas pendant 7 ans, à son ami Amoroso Lima. Je dis entre parenthèses que le Brésil a joué une place énorme dans la vie de Bernanos. Il aurait voulu y mourir, il s'est fait beaucoup d'amis, mais le général de Gaulle l'a rappelé après la guerre, tout de suite, parce que Bernanos s'était engagé pour de Gaulle. Il avait 2 fils qui étaient dans l'armée de Gaulle pour la libération, et Bernanos donnait des messages qui passaient à la BBC. Alors, est-ce qu'il est rentré pour ça? En tout cas, alors je dis tout de suite, il a rencontré de Gaulle au moins 2-3 fois, et là, de Gaulle me paraissait manquer d'un discernement absolu. De Gaulle lui avait proposé d'être ministre de l'éducation. Nous aurions eu des réformes d'éducation qui eussent été des désastres à l'état pur. Les lycéens auraient manifesté tous les 8 jours. Ce que Bernanos s'était fait pour être ministre de l'éducation, comme je suis fait pour être cordonnier ou informaticien. Et donc, il est quand même rentré, mais bon, il a tellement été déçu par l'atmosphère de la France à l'époque, l'épuration, le marché noir, etc., et la prise du pouvoir par tous les partis, qu'il a, une fois de plus, il est parti au désert en Tunisie. C'est là qu'il mourra de son cancer, en écrivant son testament spirituel, Dialogue des Carmélites, qui n'avait pas été prévu. Donc, c'est vraiment l'histoire. Voici ce qu'il écrit. « Et moi aussi, mon ami, je joue ma vocation et ma vie. Vous me direz que ce sont là pour moi de bien grands mots. Mais les vrais grands mots ressemblent aux vrais grands seigneurs. Ils ne sont déplacés nulle part. Nos vocations sont ce qu'elles sont, elles sont, voilà tout. Elles nous ont été données. Je ne crois pas que nous puissions plus facilement nous faire relever d'elles qu'un religieux ses vœux. Je ne me suis pas fait moi-même écrivain. Je ne le suis devenu que très tard, et pas de très bon gré. Je crois aussi que le succès ne m'a pas tourné la tête, ni grisé. Grisé de quoi ? J'ai toujours vécu dans mon pays comme vous me voyez maintenant vivre dans le vôtre. Je n'ai pas l'air d'un homme qui se pousse beaucoup dans le monde. Bref, il me semble que j'ai respecté ma vocation. Elle n'a pas été pour moi une source d'honneur ou de profit. Je ne l'ai pas traitée comme une maîtresse, mais comme une compagne vénérée à laquelle Dieu m'a uni. Il faut que nous nous sauvions ensemble, non par omission, abstention, mais en nous accomplissant jusqu'au bout, l'un par l'autre, comprenez-vous? Il faut que ma vocation, mon travail et ma vie ne fassent qu'un, que je soulève tout cela jusqu'à lui, le Seigneur. Les pratiques de la dévotion ne me sauveront pas toutes seules. Oh, croyez bien que je ne les détienne pas. Je dis chaque jour mon chapelet comme n'importe lequel bonne dévote. Je lis chaque jour ma messe, faute de pouvoir l'entendre. Il est au Brésil dans un bled perdu. Je ne me couche jamais sans avoir récité mes complis. Je ne me crois pas quitte pour cela. Je sais bien qu'il serait moins dangereux d'être un véritable charpentier comme notre bien-aimé Saint-Joseph. Mais la vie chrétienne est toujours un risque immense, cher ami. Ce n'est pas une combine édifiante. Voilà ce que je crois. Je crois que le décor est planté de qui est cet homme, enfin autant qu'on peut dire en quelques instants. Et comme nous avons encore un peu de temps, j'attaque la deuxième partie pour gagner un peu de temps, parce qu'elle est relativement longue, qui était prévue tout à l'heure, elle le sera, mais nous allons amorcer la descente aux enfers, au cœur des ténèbres. Deuxième chose. C'est-à-dire cette partie de l'exploration du cœur humain par Bernanos. Petite citation. « Qu'est-ce que donc que le péché ?» dit Bernanos. « Une transgression de la loi, sans doute, mais que voilà une pauvre abstraction. Au lieu que vous aurez tout exprimé de lui, quand vous l'aurez nommé de son nom, un déicide. » Et petite citation de François Mauriac, qui était souvent en bisbille avec Bernanos. À la fin, ça s'est très bien arrangé. Il y a des très beaux textes. Bernanos s'est avancé plus loin qu'aucun d'entre nous dans la connaissance de ce que c'est que le mal. Vous savez que quand on fait les exercices spirituels de Saint Ignace, qui normalement durent un mois, car Saint Ignace pensait que pour convertir quelqu'un, il faut un mois, eh bien, on commence par une semaine sur le péché. J'ai fait les exercices d'un mois et on marine dans le péché pendant une bonne semaine, pas pour y rester, mais pour en sortir. Et pourquoi ? C'est Saint Ignace qui avait inventé ça à partir de son expérience. Si on ne sait pas où on est perdu, comment savoir qu'on est sauvé ? Si on ne sait pas qu'on est perdu, si on ne sait pas qu'on a besoin de salut, le salut n'apparaît pas important. Je me rappelle un copain, un service militaire, il me dit, le salut, ça, on n'a pas besoin de ça, nous. Et bon. Et si on ne sait pas où on est plongé, comment savoir ? Ceux qui savent qu'ils sont sauvés, par exemple, les gars hier qui sont atterris avec un Boeing sur la baie d'Hudson et qui se sont trouvés sur les... qui ont été tous sauvés grâce à cet extraordinaire pilote, ceux-là, ils vont savoir ce que c'est que le salut, ils ont manqué de tous mourir. Hein. Donc, ils savent. Sinon, on ne se rend pas tellement compte. Bon. De nombreux lecteurs ont été rebutés par l'atmosphère de l'univers bernanosien et préfèrent lire autre chose. Ben, c'est leur droit. Hein. Mais nous savons que, pour Bernanos, la littérature du roman n'est pas un divertissement au sens pascalien. Encore une fois, il a une vision catholique du réel et le monde en Bernanos renvoie au vocabulaire de Jean sur le monde qui oppose au royaume promis par Jésus le monde de Satan. Il était dans le monde et le monde fut par lui, le monde ne l'a pas connu. Jean 1:10. C'est le monde qui a mis à mort Jésus, repoussant la lumière, etc., etc. Satan est le prince de ce monde. Jean 12:31, 14:30, 13:11. Il est le dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4:4. Monde de ténèbres, trompeur, tissé de mensonges, allant jusqu'au déicide. Jean 8, 44. Alors attention, nous n'allons pas dire, comme Thérèse dit, David là, démon, au lieu de dire démon, voudrait me dire Dieu. Non. Il ne s'agit pas de tomber dans un satanisme. Il s'agit quand même de rester face au monde tel qu'il est. Encore une fois, ce n'est pas un hasard si la bombe jetée par Bernanos en 1926 s'appelle Sous le soleil de Satan. Alors, ne vous affolez pas, nous en sortirons. Hein? Mais il faut commencer par le ténèbre pour montrer la lumière. Je dis tout de suite que ténèbres et lumière dans la vie se mélangent. Hein? C'est l'ivraie et le bon grain. Oh, mais il vaudrait mieux arracher tout d'un coup. Non, dit le Seigneur. Ou attends, donc à la fin. Donc, dans Bernanos, c'est ça. Je suis obligé, par la pédagogie, de commencer par les ténèbres. Bon, après, on parlera de la lumière. Mais dans le réel, on est dans le brouillard, plus ou moins. Hein. Il faut discerner, mais quand on est... On ne raconte pas un roman de Bernanos, parce qu'on le réduit à n'être plus qu'un roman noir, souvent très noir. Le mensonge, la médiocrité, l'adultère, la drogue, le crime, l'angoisse, le désespoir, la haine et le suicide, ils sont très fréquents. Hein. Si j'ai fait mon diplôme sur la mort chez Bernanos, je peux vous dire que dans 8 romans, j'ai trouvé 9 meurtres, 12 suicides, 14 récits d'agonie et des personnages importants. Donc, si vous avez envie de vous distraire, il vaut mieux que vous quittiez la salle tout de suite. Vous reviendrez dans 3 heures pour écouter la grâce. Mais l'idée, ça sera là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. De fait, on ne peut pas résumer. Alors là, je ferai allusion à des gens que vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas tout lu, mais enfin bon, ça ne fait rien. Tout est donné par la première page du curé de campagne. Vous l'avez peut-être vu hier soir, mais enfin bon, c'était... Voilà, le jeune prêtre devant sa paroisse dans l'Artois. Ma paroisse est dévorée par l'ennui, voilà le mot. Comme tant d'autres paroisses. Nous sommes en 1930. L'ennui les dévore sous nos yeux et nous n'y pouvons rien. Quelques jours peut-être la contagion nous gagnera, nous découvrirons en nous ce cancer. On peut vivre très longtemps avec ça. L'idée m'est venue hier sur la route. Il tombait une de ces pluies fines qu'on avale à plein poumon, qui vous descend jusqu'au ventre. De la côte de Saint-Vaast, le village m'est apparu brusquement, si tassé, si misérable, sous le ciel hideux de novembre. L'eau fumait sur lui de toutes parts, il avait l'air d'être couché là, dans l'herbe ruisselante, comme une pauvre bête épuisée. Que c'est petit un village, et ce village était ma paroisse. C'était ma paroisse, mais je ne pouvais rien pour elle. Je la regardais tristement s'enfoncer dans la nuit, disparaître. Je me disais donc que le monde est dévoré par l'ennui. Naturellement, il faut un peu réfléchir pour se rendre compte. Ça ne se saisit pas tout de suite. C'est une espèce de poussière. Vous allez, vous venez sans la voir, vous la respirez, vous la mangez, vous la buvez, et elle est si fine, si ténue, qu'elle ne craque même pas sous la dent. Mais que vous vous arrêtiez une seconde, la voilà qui recouvre votre visage, vos mains. Vous devez vous agiter sans cesse pour secouer cette pluie de cendres. Alors le monde s'agite beaucoup. On dira peut-être que le monde est depuis longtemps familiarisé avec l'ennui, que l'ennui est la véritable condition de l'homme. Possible que la semence en fût répandue partout et qu'elle germât, ça et là, sur un terrain favorable. Mais je me demande si les hommes ont jamais connu cette contagion de l'ennui, cette lèpre. Un désespoir avorté, une forme turpide du désespoir, qui est sans doute comme la fermentation d'un christianisme décomposé. Avec ces 20 lignes, j'aurai l'impression que la conférence est faite. D'abord, vous avez vu la force des images. Bernanos avait dit, je voudrais lancer un bataillon d'images. Et ces images, vous avez déjà vu que le cancer, par exemple, le cancer, nous en verrons bien d'autres, mais aussi le village, l'harmonie entre l'Artois, la pluie, les vaches couchées, etc., et puis le spirituel avec cet ennui. Cet ennui, c'est pas un ennui quelconque, c'est l'ennui métaphysique. Concerne le sens de l'existence, le sens de la vie, tout le monde aujourd'hui, c'est normal. Les pères de l'Église l'ont nommé acédia, nausée devant la vie, indifférence profonde. Chantal de Clergerie, qui est l'héroïne de la joie et la posture et la joie, l'appellera tristesse. Elle dira les hommes sont tristes, si tristes. Et cette tristesse profonde provient d'une peur de la mort qui atteint beaucoup de personnages panadousiens et qui peut être très inconscient. Mais enfin, le fait que notre vie est limitée, nous sommes tous promis à la mort, et qu'est-ce que ça veut dire? Julien Green, autre grand auteur, dans son journal a bien vu, l'ennui est tout simplement un des visages de la mort. Et Monsieur Wynne, dans un roman absolument étonnant, un personnage très trouble, dit dans le roman qui porte son nom, il parle à l'abbé de la paroisse, la paroisse de Fenouil. Ce livre, avant de s'appeler Monsieur Wynne, s'appelait la paroisse morte. Vous voyez l'ambiance. Il n'y a pas de malheur des hommes, monsieur l'abbé. Il y a l'ennui. Personne n'a jamais partagé l'ennui de l'homme, et néanmoins gardé son âme. L'ennui de l'homme vient à bout de tout, monsieur l'abbé. Il amollira la terre. Et il est professeur d'anglais. Il termine son entretien, la dernière disgrâce de l'homme est que le mal lui-même l'ennuie. Cette crainte de la mort dans les romans de Bernanos touche tout le monde, les médecins, les écrivains, les prêtres, et elle sera présente évidemment dans l'ultime création de Bernanos qui lui propose un scénario qui va devenir, c'est providentiel, le résumé de tous les thèmes de toute sa vie. Blanche de la Force, dans le dialogue des Carmélites, est une jeune fille qui est née au moment où sa mère a accouché dans les troubles de la Révolution. Elle a donc été traumatisée à sa naissance et elle porte la peur en elle. Et cet ennui. Comment fuir cet ennui, cette peur? Alors Pascal l'avait déjà dit, en y point songeant. Et le curé de campagne répond, alors tout le monde s'agite beaucoup. Selon les personnages, divers moyens de fuir l'ennui vont exister. Une des possibles formes d'évasion pour un certain nombre de gens, c'est l'art. Pour Bernanos, plus précisément, la littérature, celle qu'il refuse pour lui-même. Sa comédie humaine, il a beaucoup lu Balzac, comprend de nombreux écrivains, plus ou moins célèbres, qui ont cru qu'en projetant leurs rêves sur le papier, ils seraient délivrés de leur hantise, vaincre la mort en créant un monde imaginaire. Ainsi, l'écrivain Gans, dans Un mauvais rêve, avoue son échec à sa secrétaire. La littérature n'a jamais délivré personne, et personne d'ailleurs ne réussit à se délivrer de soi-même des blagues. On peut espérer l'oubli, et encore, car l'oubli, voyez-vous, ça ne se trouve que dans le sommeil ou la débauche. Alors, je remarque en relisant Bernanos qu'il emploie des mots qui sont complètement dépassés, la luxure, la débauche, le vice. On ne parle pas beaucoup de ça. On parle beaucoup de sexualité, de plein de choses, mais enfin, c'est à peu près pareil. Enfin, la débauche, la luxure, le vice. Alors, l'autre aspect de la fuite, c'est la débauche. Or, c'est quand même étonnant que beaucoup de ces littérateurs sont des débauchés. Que ce soit l'écrivain Saint-Marin, dans « Sous le soleil de Satan », l'abbé Sénard, alors, que nous retrouverons, monsieur de Clergerie, dans « L'imposture et la joie », ou monsieur Wynne, professeur d'anglais, tous recherchent une évasion dans l'écriture avec une curiosité sans amour, un certain voyeurisme. C'est ça que descend dans le cœur de l'homme, mais avec une sorte de perversité. Évidemment, comment ne pas penser à certaines émissions de télé? Ben ça, il n'y a pas la télé du temps de Bernanos. L'abbé Sénard, un prêtre intellectuel, écrit sur les mystiques sans avoir la foi, ou plutôt en l'ayant perdu. Seul l'intéresse des questions psychologiques. On a dit que Bernanos avait peut-être plus s'inspirer de l'abbé Brémond, c'est peut-être un peu dur ça, de même que Saint-Marin fait passer Zola. Mais chez Bernanos, il n'y a pas de copie, hein. Il y a des choses qui flottent comme ça. Bon. On a pu remarquer que Gans a parlé de la débauche comme une autre possibilité de fuite. C'est vrai chez plusieurs écrivains. Ainsi Jacques, déjà dans Dialogue d'ombre, une nouvelle qui a commencé. Et M. Guéroux, un vieillard libidineux de l'imposture. Saint-Marin, dans Sous le soleil de Satan, délivrent leur forte personnalité dans le vice. Et là, il y a la réflexion du jeune curé de campagne sur la luxure, encore une fois ce mot qu'on n'entend plus guère, mais enfin on voit ce que ça veut dire. La réflexion va infiniment plus loin qu'une attitude moraliste concernant la sexualité. Ça sera le texte avant la pause. Ça vous permettra de réfléchir. Après tout, que sait-on de la folie? Que sait-on de la luxure? Que sait-on de leur rapport secret? La luxure est une plaie mystérieuse au flanc de l'espèce. Que dire à son flanc? À la source même de la vie. Confondre la luxure propre à l'homme et le désir qui rapproche les sexes, autant donner le même nom à la tumeur et à l'organe qu'elle dévore, dont il arrive que sa difformité reproduise effroyablement l'aspect. Toujours l'image du cancer. Le monde se donne beaucoup de mal, aidé de tous les prestiges de l'art, pour cacher cette plaie honteuse. On dirait qu'il redoute à chaque génération nouvelle une révolte de la dignité, du désespoir, le reniement des êtres encore purs, intacts. Actualité. Alors on va s'arrêter là, parce que le moyen suivant de fuir l'ennui, c'est la drogue. Alors je dis tout de suite qu'il y a dans tous les romans de Banano des drogués, mais c'est une drogue d'intellectuel. C'est une drogue à la Huysmans, une drogue à la Cocteau, une drogue qui permet aux artistes dans un monde imaginaire. Ce qui est, il y en a dans chaque roman. Et ce qui est incroyable, c'est que depuis Bernanos, la drogue s'est démocratisée à un point incroyable, puisque maintenant on se drogue dans les lycées ou ailleurs, on se drogue dans le monde entier, que la drogue est... Et que, justement, il avait déjà vu que la drogue était un moyen de fuir sa personnalité, d'évacuer les problèmes, etc., jusqu'au point qui va, pour certains, aboutir au suicide. Or, là aussi, il a été... Alors, prophète, alors on a souvent dit, ben, c'est pas prophète qui annonce l'avenir comme ça, dans le marc de café, hein, mais il a des intuitions sur l'homme tel qu'il est, qui font que... En écrivant à cette époque-là, Bonta, qui a déjà 50 ans, il décrit en même temps des réalités du point éternel, mais de notre monde, qui s'est encore beaucoup plus et déchristianisé et déspiritualisé qu'en son temps. Ce qui fait que le diagnostic sur la société, qu'on ne trouve pas dans ses romans, mais qu'on trouve dans ses livres de combat, sont d'une actualité absolument étonnante aujourd'hui. Et c'est toujours le même axe. Alors, c'est peut-être pas pour rien que Bernanos peut revenir d'une certaine manière chez un Jacques Julliard du Nouvel Obs, qui est un homme de gauche et qui vient d'écrire un livre sur l'argent dans le monde moderne, l'argent et le diable, Bernanos, Claudel et Mauriac, qui vient sortir. Tout à fait étonnant. Et il n'est pas le seul. C'est-à-dire que ces diagnostics sur l'homme, qui étaient portés par cet homme qui voyait en profondeur, et à partir simplement, comme il dit, moi, je ne suis pas théologien, hein, je ne sais qu'une chose, c'est mon catéchisme. Il savait assez bien. Bon, parce que le catéchisme était très fort. Bon, et bon, mais il suffit. Alors, et en même temps, il veut pas faire une carrière littéraire pour réussir. Sa vocation, c'est d'explorer le cœur humain pour annoncer, justement, pour annoncer le salut. Voilà, alors on a une pause.